Chronique Livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, j'imagine que vous vous sentez aussi triste après avoir appris la mort de cette autrice si appréciée, Caroline Dawson.
Ah oui, en effet, parce que bon, on le savait,
ouais.
Mais c'est comme si ça se multiplie. Les jeunes femmes qui meurent du cancer alors qu'elles ont même pas 50 ans ou presque, là. Je pense aussi à une autre autrice moins connue, Gabrielle Réginbal, qui avait appris qu'elle avait un cancer pendant son congé de maternité, puis qui avait écrit Lazy Boy Résurrection, puis qui faisait des spectacles de poésie, puis qui est décédée, elle aussi, très jeune, récemment. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si c'est dans l'environnement, ce que l'on mange, mais les femmes sont victimes de cancer. Et puis bon, ben, c'est pas moi qui l'invente, là, je l'ai lu dans les journaux. Et puis, ben, Caroline était en même temps une autrice, comment je dirais, qui était à la fois une vedette parce qu'elle, bon, elle avait des chroniques à la radio, mais aussi parce que son livre s'est mérité des prix. Et puis, moi, quand j'ai lu ça, c'était au même moment où je m'apprêtais à accueillir une famille d'Ukrainiens ici et de voir combien avait été difficile son intégration en tant que, bon, surtout pour ses parents en tant qu'immigrants. J'ai compris combien il y a du travail à faire aussi. Et ce livre-là, s'il ne servait qu'à ça, à nous ouvrir sur ces problèmes et accueillir différemment les gens qui viennent d'ailleurs que d'être obligés de faire du ménage comme ils ont fait pendant des années, ben je pense que ce livre-là doit être lu par tous. Et puis moi, je l'ai vu lire au cégep avec mes étudiants.
Mm-hmm. Ah oui.
Il résonne parce qu'elle parle de ses années d'études aussi là-dedans. Alors oui, c'est bien triste, c'est injuste. J'ai pas de mots pour dire combien il y a des gens qui partent trop vite.
Absolument. Puis, heureusement, elle a un leg. On aurait aimé ça lire encore plus de Caroline Dawson, mais vous parliez de ce livre-là. Ce livre-là, c'est Là où je me terre.
Oui, on parle de ça comme
un incontournable.
Voilà,
et
c'est ça.
Merci Anne-Marie. Aujourd'hui, à vous présenter un livre qui s'appelle Graine B au passé simple. Juste le titre me fait rire. Hakim Gagnon. Oui. Est-ce que j'ai raison de rire parce que je connais l'auteur, oui. Mais je connais pas le livre en tant que tel.
Oui, il y a quelque chose de bien drôle, mais parfois de bien triste. Ça dépend. C'est un drôle de livre. En fait, il était finaliste au prix des libraires.
Oui.
Et bon, jeudi dernier, on a appris que c'était la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot qui s'est mérité le prix. Et c'est excellent. C'est un premier roman, puis je l'ai adoré. Et il n'a pas fini de faire parler de lui. Puis parmi les finalistes, il y avait un titre quand même qui m'intriguait, Grundy au passé simple, de Hakim Gagnon, aux éditions La Mèche, qui est comme une division des éditions La Courte Échelle. Alors, j'ai attaqué cette brique de 407 pages. Sur le coup, j'étais un peu étonnée. On est dans un monde d'hommes. Il faut savoir qu'Hakim Gagnon, il est né en 89, il est très jeune. Il travaille dans le monde du vidéoclip, puis il a réalisé des œuvres pour beaucoup d'artistes qui font de la chanson. Puis, dans ce livre-là, ce qu'il raconte, c'est des scènes de sa vie, son enfance, son adolescence. Mais ça commence avec un prologue qui est assez récent, où son père vient lui rendre visite à Montréal, parce qu'il a un appartement maintenant à Montréal, et son père vit à Saint-Georges-de-Beauce. Puis, là, ensuite, on a 27 petites scènes de sa vie qui sont classées chronologiquement, qui racontent des anecdotes de l'enfance, l'adolescence, la vie quotidienne, surtout avec son père. Il n'est presque pas question de sa mère, puis presque pas question de son frère non plus. C'est vraiment lui et son père.
Son père est très présent dans son œuvre. Hein?
Ah oui, il l'appelle Pop.
Oui, Pop.
C'est un bonhomme sympathique. Et puis, il décrit son livre comme une autofiction 100% fictive. Et quand on lit ce prologue-là, on se dit, bon, ça y est, c'est un monde d'hommes crus. Mais dès qu'on tombe dans les anecdotes, c'est tout une autre manière d'aborder la réalité. Parce que là, c'est par les yeux de l'enfant, l'adolescent, mais l'adulte qui est derrière, bien sûr, qui nous parle de sa famille, du travail difficile de son père, qui travaille en usine. Mais avec ses yeux d'enfant, toujours. Les classes sociales, bien sûr, parce qu'ils habitent un quartier de maison mobile à Green Bay, probablement Saint-Alphonse de Green Bay, un petit peu à l'extérieur. Et ce qui va sauver cet enfant-là, parce que là, on dirait qu'il absorbe comme une éponge toutes les angoisses de son père, les peurs de son père, son anxiété, sa dépression. Alors, il va trouver dans le théâtre et le cinéma une manière de s'évader. Alors, il fait du cinéma amateur avec une caméra. Et puis, il va s'inscrire à des cours de théâtre avec son frère. Je crois qu'il a 6 ans quand il commence. Et ça, c'est une révélation. Il va rencontrer là un professeur qui va être comme un père pour lui. Il y a juste quelques années de plus que lui. Il est tout jeune, il commence, mais qui va l'amener à faire des spectacles, à se concentrer. Et il dit que là, quand il est dans ses cours de théâtre, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de problème de distraction. À l'école, il s'ennuie terriblement, mais là, dans les cours de théâtre, ça va bien. Alors donc, on lit tout ça, puis on apprend comment finalement c'est difficile pour le père, qui est monoparental, j'ai oublié de le dire, mais à la naissance du garçon, les parents se séparent, à la naissance du deuxième. Donc, le père vit dans une espèce de maison mobile qu'il n'entretient pas du tout, qui a plein de problèmes, et la mère vit en appartement, pas très loin, et ils font comme tous les enfants, ils vont vivre chez leur père en alternance avec leur mère, mais les deux prennent très bien soin des enfants. C'est juste que le père est un peu comme un adolescent, dans le sens qu'il n'y a pas de... Il est démesuré dans tout, dans ses émotions, dans sa façon de dépenser de l'argent. Et puis, il va essayer de compenser le fait d'être séparé en gâtant ses enfants avec toutes sortes de choses, que ce soit pour les jouets, ensuite ça va être pour les vêtements. Et Hakim raconte justement que, bon oui, il allait au Walmart et il choisissait des cadeaux, mais un jour, il est un peu plus vieux, il commence à s'intéresser aux vêtements griffés. Puis là, il va dans une boutique, puis il nous nomme le nom des chandails griffés que moi, je ne connais pas, là, mais entre autres, il est question d'un coton ouaté Johnny Blaze qui coûte 199 $. C'est énormément d'argent, ça, pour les années 90. Alors, il va négocier toutes sortes de choses avec son père, qui va le mettre beaucoup, puis il est plus chaud, puis si puis son père finit par sortir sa carte de crédit, puis acheter le fameux
chandail. Oh non!
Ouais.
Et à 180 $ taxes non incluses?
199 taxes non incluses.
Ah, 199.
Ouais, puis son père est quand même pas si riche que ça. Alors, il dit, quand j'ai enfilé le chandail, je me sentis instantanément mal. Il était lourd de tissu et pesant de mensonges. Le désir de manipuler s'était installé en moi sournoisement. La part du gain devenait si jouissif que je pouvais non seulement mentir à mes parents, mais me bullshiter moi-même. Ça pouvait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que le gros bon sens s'invite dans mon esprit et que je me rende compte de tous les détours hideux que je prenais pour arriver à mes fins. Dès que je m'en apercevais, le vêtement prenait le bord. Je compris que j'abusais peut-être de mon père le jour où sa ceinture, celle qui maintenait en place son unique paire de jeans, péta et qu'il la remplaça par une dizaine de petites cordelettes qui servaient à attacher les boîtes de poulet au coq. Je jugeais l'idée ingénieuse, malgré toute la culpabilité qui m'envahit. Une montagne de linge m'empêchait de voir que j'étais en train de ruiner mon père. C'est terrible, hein?
Je comprends.
Alors là, ben...
Mais c'est très lucide.
Oui, c'est ça.
Cette prise de conscience-là, là?
Absolument. Il est authentique dans tout ce qu'il dit. On y croit tout le temps. On dirait qu'il n'y a pas de filtre. Il dit tout. Puis, outre ses cours de théâtre, lui, son père... est fier que son fils fasse du théâtre, mais en même temps, son père n'a pas la capacité de gérer le stress de son fils. Alors, il devient stressé comme si c'est lui qui allait faire le spectacle. Puis un jour où il y a une représentation, ça c'est très drôle, il se rend compte qu'il n'y a plus de bobettes propres. Alors, il dit, comment ça se fait? Je viens de faire le lavage. J'ai oublié de les mettre dans le panier à linge. Alors, bon, je vais mettre mes shorts à place pour faire du sport. Mais ça ne marche pas. Le monde va voir ça. Puis là, il y a toute une obstination. Et là, son père, stressé, lui dit, la job d'un artiste, c'est de se concentrer, réfléchir à son texte, réfléchir à ses intentions, réfléchir à ses mouvements. Penses-tu qu'Olivier Guimond est devenu un grand humoriste en lavant ses bobettes? Non. Tizoun passait son temps à répéter son texte. Tu as un show dans 2 heures, puis je te vois faire mille et une affaires sauf te concentrer. Je comprends pas. Je comprends que tu sois nerveux, mais essaie de gérer ça un peu. Alors ça, c'est très drôle parce que plus son père s'énerve, moins il est énervé. Alors donc, ça l'aide parce que quand son père s'énerve, il fait abstraction, il a appris à faire abstraction de ce que son père lui dit parce qu'il sait qu'il devient hors de lui. Puis, il réussit comme ça à rester calme. Et puis, il réussit très bien. Hein? Lui et son frère sont les vedettes du spectacle. Et son frère, son papa est très fier de ses garçons. Puis, au spectacle, il y a le père et la mère qui viennent. Et c'est comme si mes parents, tout à coup, redevenaient un couple.
Ouais.
Et puis, tous les enfants de parents séparés rêvent à ça.
Et Anne-Marie, vous disiez tantôt, mais c'est Hakim Gagnon là, qui déclare qu'il s'agit d'une autofiction 100 % fictive. Est-ce que le personnage s'appelle Hakim?
Oui, oui, exactement. Oui.
Et Hakim, pourquoi, est-ce qu'on explique pourquoi il s'appelle Hakim? Ou peut-être qu'il l'expliquait dans l'autre, Le cigare au bord des lèvres?
Peut-être, non, il n'y en est pas question. Non. Je sais qu'à un moment donné, il va en Beauce ou habite... c'est ça, ou en tout cas, non, il y a quelqu'un, un jeune homme qui vient, c'est le fils d'une des blondes de son père, qui dit, t'avais un drôle de nom, il dit, ben non, pas un drôle de nom, l'on dit, je défends ça.
Et son frère s'appelle comment?
Carl Camille.
Carl Camille, ben ça aussi, c'est original, ça aussi, oui, Carl Camille.
Original.
Viens souper, Carl Camille, venez souper, Carl Camille et Hakim.
Puis lui, le père, il l'appelle Pop.
Oui, oui, oui.
Comme un diminutif de papa.
P.O.P.
Et puis, c'est ça. Puis tout ce qu'il raconte, ben, ça se situe dans les années 90. On est à Green Bay, parce qu'à cette époque-là, son père est là. Et puis là, ben, les années 90, c'est les clubs vidéo. Ils vont emprunter des films. Ils oublient toujours des rebobinés. T'sais, on a l'impression d'être dans l'ancien temps, mais c'est pas si loin que ça. Programmer un vidéoscope pour enregistrer une émission, là, ben, c'est
lui qui va apprendre
à son père. Ouais. Ben, on a fait ça parce que son père travaille de soir ou de nuit. Puis là, ben, il veut écouter La Petite Vie. Fait que lui, il enregistre ça. Puis là, son père l'appelle à la pause. Puis il demande si c'était-tu bon. Il est tellement hâte de voir l'émission avec son fils. Le cinéma et la musique sont partout dans ce roman-là parce qu'ils sont très importants dans la vie du père qui va transmettre ça à ses enfants.
Mais est-ce que c'est vraiment écrit au passé simple, Grenby au oui. passé simple?
Oui, c'est au passé simple. Et puis, c'est un langage qui est parfois cru. C'est un vrai roman de gars, mais plein d'humour.
Cru au passé simple, c'est drôle.
Oui, ben, il y a de l'imparfait entre-temps quand il raconte les scènes, mais il les raconte d'abord au passé simple. Puis ça fait pas vraiment, je l'avais pas vraiment remarqué avant que ça fasse quelques pages que je le lise. Et puis, bon, ben, je trouve que parfois, je voulais raconter des scènes à mon conjoint, là. Je riais tellement. Je m'étouffais à vouloir lui raconter des scènes.
Ah oui.
Il y en a qui sont vraiment très drôles. Et puis, lui, en même temps, il vit la dépression de son père parce qu'il va perdre son emploi en usine. C'est une réalité, ça aussi, qui va arriver avec les années fin 90, où les robots rentrent dans les usines. Et puis là, ben son père essaie de trouver un emploi, mais il a pas son secondaire 5, alors ça va pas très bien. Mm. Alors, il raconte comment il va être devenu un tempérament agressif et qui va s'en prendre à lui, parce que lui, c'est le plus avec qui il a la meilleure relation, on peut dire. Alors, il s'en prend à lui autant dans le bon que dans le mauvais. Et un soir, ils sont allés manger chez Pizza Hut, comme tous les dimanches. Et là, son père, il chiale pour tout. Alors, il dit que ce soir-là, alors qu'il était plus en colère que d'habitude, il dit, au fil de cette chicane-là, je réussis à ignorer les propos de mon père et à les remplacer par la bande sonore de Modern Times, à propos de Charlie Chaplin. Une fois la musique bien en place dans ma tête, j'ai décidé de pousser encore plus loin mon imagination. Plus mon père se choquait, plus j'imaginais le costume de Charlot l'envahir. Quand Pop fronçait les sourcils, en m'injuriant, d'immenses traits noirs de maquillage apparaissaient juste en haut de ses grands yeux vitreux. Quand il parlait à travers son chapeau, un melon se déposait sur sa tête. Souvent, mon père me chicanait en restant assis dans sa chaise versante, le cul déposé sur une de ses jambes, ce qui avait pour effet de l'engourdir. Quand il se levait, il boitait légèrement, et c'est à cet instant précis que je l'affublais de la frêle canne de bambou de Charlot. Cette visualisation m'aidait à dédramatiser la situation et stimulait mon cerveau autrement que par l'inconfort et la peur.
Vive l'imagination.
Ouais, alors ça, c'est merveilleux, là, quand il nous explique à chaque fois comment il fait abstraction d'une réalité, il est au-dessus de tout ça et il domine parce que sinon, il devient l'éponge qui prend tout ce que son père lui crache, finalement.
Et c'est très nocif, c'est super malsain.
Oui, exactement. Puis là, ben lui, il va avoir les mêmes réactions que son père au début, là. Puis là, ouais. Il s'en va vivre en appartement. Il nous raconte comment c'est pas si simple de couper. C'est pas parce que tu changes de lieu que tes habitudes vont changer. Puis là, bon, ben, on avance dans le temps avec lui. Et la dernière partie, qui est un épilogue, ben là, c'est lui qui va aller visiter son père dans la Beauce et il va constater que son père a été métamorphosé. Donc, c'est un texte très intéressant parce que ça parle de la relation père-fils. Il n'y en a pas beaucoup. Des relations mère-fille, j'en ai lu plein. Justement, la semaine dernière, quand je parlais d'Élise Turcotte, c'est beaucoup sur la filiation des femmes. On est dans un univers féminin.
Tante et nièce.
Tante, mère, nièce, la parenté, finalement, tout ce qu'on ne sait pas sur cette femme. Bon, ben là, ici, on apprend à découvrir un homme qui ressemble à des centaines d'hommes qui ont travaillé en usine, qui n'ont pas beaucoup d'instructions, qui ont tout fait pour essayer d'être un bon père auprès de leurs enfants, qui avaient évidemment pas ce qu'il fallait. Il n'y avait pas nécessairement les outils. Et puis lui, ben, Hakim Gagnon voulait comme rendre hommage, j'ai l'impression, à son père. Et à la fin, il déclare qu'il n'a pas beaucoup parlé de sa mère et il y aura peut-être un livre sur sa mère plus tard parce qu'elle est effectivement quasi absente du récit. Mais comme il a un certain recul, il est capable de se remémorer les événements avec son cœur d'enfant, mais tout en étant un adulte qui voit aussi les nuances de ces événements-là. Bon, alors c'est un livre malgré tout lumineux, plein d'amour, des larmes, là. Ils sont émotifs, ces gens-là. Ils se serrent dans le bras, puis ils ont du mal à formuler les émotions, mais ils les vivent, les émotions. Alors, moi, je le suggère à mes amis gars, parce que c'est un livre rare. Il n'y en a pas beaucoup sur le sujet. Puis c'est très amusant. Il y a beaucoup de belles images. C'est le pro de la comparaison, de la métaphore. Pour expliquer quelque chose, c'est toujours avec des excès.
Ah oui. Je pensais à Francis Ouellette. C'est sûr que son monde est plus glauque, mais une plume comme ça, tu sais, franche et directe et crue.
Moi, j'ai pensé aussi à Jean-Christophe Réel.
Ah oui, ah oui, je pense que c'est encore mieux.
C'est deux garçons qui s'occupent de leur père qui est mourant. Puis un garçon qui était maniaco-dépressif. Là, bon, c'était pas facile. Ben là, le narrateur s'occupe d'un père qui est en dépression et il prend tout pour lui. Et puis, ben, raconte dans un milieu de gars, puis c'est là que je vois que le langage masculin est beaucoup plus cru que celui des femmes.
Mais les femmes vont apprécier aussi, comme vous, vous en êtes une.
Oui.
Alors, on rappelle le titre, Grenby au passé simple, c'est Hakim Gagnon qui a écrit ce livre, paru en 2023 aux éditions La Mèche, 407 pages. Moi, j'ai reçu deux pour un recueil de deux œuvres distinctes que j'ai pas encore lues, mais je vais probablement le lire quand je vais avoir un petit peu plus de temps. Merci Anne-Marie, il faut se laisser.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Au revoir.